Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi politique avec Édouard Martin, tête de liste du Parti socialiste aux européennes dans la région de l'Est. Toujours avec nous dans ce studio, Nathalie Rollin de Libération et Bernard Pellegrin de l'agence France Presse. Et nous commençons cette seconde partie, Édouard Martin, avec la grande affaire du quinquennat Hollande, le pacte de responsabilité pour les entreprises. Après-midi décisive à l'Assemblée nationale, les députés se prononcent sur les 50 milliards d'économies que la France s'engage à faire jusqu'en 2017. Il y a le pacte de responsabilité, puis il y a le vote de responsabilité, selon Manuel Valls.
Le vote d'aujourd'hui est un moment de vérité. Ce n'est pas un vote indicatif. C'est un vote décisif. Et il marquera, j'en suis convaincu, profondément l'évolution de notre pays. Ce moment nous invite tous au dépassement de nous-mêmes.
Voilà les enjeux fixés tout à l'heure à l'Assemblée nationale par le Premier ministre. Le vote n'a pas encore eu lieu, c'est imminent. Il y a encore des orateurs à la tribune de l'Assemblée nationale. Édouard Martin, je vous repose la question que vous a posée il y a quelques minutes Bernard Pellegrin.
On parlera d'Europe un peu ou...
On va en parler, on va en parler très vite.
Ça vous a pas échappé que je suis candidat aux européennes
quand même. On va en parler. Je vous repose donc la question. Vous seriez député, vous voteriez quoi ce soir?
Ben écoutez, moi, si il n'y a pas un pacte équilibré pour relancer justement cette croissance et l'économie avec la possibilité de créer des emplois, je vous avoue, j'aurais du mal à voter ce pacte-là. Oui, effectivement.
Donc vous ne le voteriez pas.
Voilà.
Alors, on va parler d'Europe. Est-ce que ce pacte, c'est à cause de l'Europe, tout simplement, ce plan d'économie de 50 milliards ?
Ben attendez, évidemment oui. Évidemment oui, mais il faut quand même pour rester objectif. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que aujourd'hui la France est victime de ses propres positionnements il y a quelques années en arrière, parce que c'est la France qui a été quand même très très virulente pour imposer cette règle des 3% et faire en sorte que chacun respecte ce pacte-là. Sauf qu'à un moment donné, je pense que la vie n'est pas linéaire. L'économie encore moins, et je pense que qu'il faille réduire les déficits, évidemment que je suis pour. On peut pas laisser une dette colossale aux jeunes générations. Mais à un moment donné, il faut essayer aussi d'équilibrer tout ça. On voit les pays qui ont choisi, ou à qui on a imposé une austérité comme jamais on en a vu. On prend l'exemple de la Grèce, qui est peut-être un cas atypique, mais regardons le Portugal, regardez l'Espagne, etc. Regardez l'Irlande. Dans quelle situation sont ces pays-là? C'est toujours très, très rageant pour le citoyen lambda d'entendre des personnalités, qu'elles soient politiques ou du monde de l'entreprise, entre guillemets des blindés, qui viennent nous dire qu'il faut encore faire des efforts, serrer encore la ceinture d'un cran. Venir nous dire qu'il faut encore accepter de travailler sous le SMIC. Alors que ce sont des gens qui gagnent des 100 000, des 200 000, des 300 000 euros annuels, qui viennent nous dire que les efforts que nous acceptons ne sont pas encore assez forts, il faut aller plus loin. C'est ça qui rend la chose détestable. Et je pense qu'à un moment donné, il faut, face à une situation de crise, tout le monde est d'accord pour le dire, comme jamais on en a vécu, il faut peut-être un peu de souplesse, quoi. Un peu de souplesse.
Alors qu'est-ce que ça veut dire de la souplesse? C'est dépasser les fameux 3%, c'est ne plus tenir compte de
la souplesse, c'est qu'à un moment donné, il faudrait savoir aujourd'hui, est-ce que le problème que traverse l'Europe, est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'Europe ou pas assez d'Europe? Le problème aujourd'hui de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. L'Europe politique n'existe pas. C'est le chacun pour soi. Les 28 chefs d'État ou de gouvernement, quand ils viennent, ils se réunissent, c'est chacun essaye de défendre son précaré, son pays, ses intérêts personnels, etc. Puis après, à un moment donné, il faut peut-être se poser la question sur, le fonctionnement de l'Europe. Est-ce que le rôle de la Banque Centrale Européenne doit uniquement être le vigile de voir qu'il n'y a pas d'inflation, qu'il n'y a pas dérive sur les prix, etc. Est-ce que la Banque Centrale Européenne ne peut pas aussi aider à relancer l'économie? C'est aussi une des demandes de la Confédération Européenne des Syndicats qui propose d'investir 260 milliards d'euros par an sur 10 ans qui pourrait permettre la création de 11 millions d'emplois. Voilà aussi une solution de relance de l'économie et on pourrait sortir de cette crise.
Édouard Martin, une question de Nathalie Rollin de Libération.
Oui, alors vous avez sans doute raison, mais dans ces cas-là, il faudrait revoter des traités au niveau européen, les faire voter par chacun des membres de l'Europe. Il n'en est pour l'heure pas question et le Parlement, de toute façon, n'a pas cette possibilité ni l'initiative de ce type de campagne. Donc, comment vous comptez arriver ou... prenez ce que vous proposez là.
Il est clair aujourd'hui, je pense que tout le monde l'aura remarqué, c'est que l'Europe à 28 ne fonctionne pas.
Et il y a surtout ceux qui sont vraiment des pro-européens, il y a ceux qui sont dans l'Europe, on se demande même pourquoi ils y sont, parce qu'ils n'ont pas envie que cette Europe se construise. Et moi, là-dessus, je rejoins la position de Jacques Delors à l'époque, à un moment donné, l'idée des cercles concentriques. Faisons l'Europe avec ceux qui ont vraiment envie. L'Europe par l'exemple. C'est-à-dire, alors pas à 6.
Il faut sortir le Luxembourg de l'Union européenne, comme le dit Laurent Wauquiez.
Ça, franchement, je peux vous assurer que...
Parce que vous connaissez bien le Luxembourg.
Je ne sais pas si Wauquiez est tombé sur la tête, ou alors s'il surfe sur une vague un peu démago. Mais franchement, je comprends pas. Mais enfin, si, je comprends que trop bien. C'est une posture politicienne de mon point de vue.
Alors vous faites l'Europe avec qui, monsieur?
Avec ceux qui le voudront.
Non, mais qui, précisément?
Par exemple, l'Eurozone, par exemple. Hein, par exemple, ça peut être un bon début. Déjà, on a une monnaie unique. Et puis, essayons.
Pas mal de monde, ça.
Pardon ?
Ça fait pas mal de monde.
Ça fait 17 pays.
Et vous gardez la Grande-Bretagne, puisque Eurocar propose de la sortir.
La Grande-Bretagne n'est pas dans l'Eurozone.
Ah oui, elle n'est pas dans l'Eurozone.
Elle n'est pas dans l'Eurozone.
Hein.
Et donc, démontrons que l'Europe, justement. Alors, est-ce qu'il faut que. Avec ceux qui voudront, et il y a des pays qui ont envie effectivement de plus d'Europe, etc., démontrant que cette Europe-là, elle fonctionne, et viendra s'y ajouter le pays qui voudra. Mais il faut qu'on montre par l'exemple que cette Europe-là, elle peut marcher, et elle va marcher.
En même temps, les opinions publiques sont majoritairement anti-européennes, en même temps, les partis politiques anti-européens ont plutôt le vent en poupe. Donc les pays qui veulent plus d'Europe,
vous savez,
je vois pas bien où ils sont aujourd'hui.
La majorité des Français ne souhaite pas sortir de l'euro, et la majorité des Français ne veut pas sortir non plus de l'Europe. Il y a à peu près, je crois...
Mais ne veut pas davantage de plus d'Europe.
Oui, mais pas plus de cette Europe-là. C'est ça le problème, c'est que effectivement, et à raison, l'Europe d'aujourd'hui n'est pas l'Europe qui donne le sentiment où on crée un espace pas uniquement de paix, ça c'est acquis, en tout cas, quoique, il faut faire attention, regardons ce qui se passe aux frontières de l'Europe, mais il faut aussi que ce soit, la vraie question c'est une Europe pour qui, une Europe pour quoi ? Hein, si c'est uniquement une Europe pour un libre-échange commercial, le libre-échange, etc., la finance...
Excusez-moi, j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous défendez. On vous entend dire que vous souhaiteriez, par exemple, que les syndicats soient associés, comme ça se fait en Allemagne depuis toujours, aux négociations, que les choses soient partagées, co-gérées, etc. Et en même temps, là, je suis en train de vous entendre et je me dis, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut l'Europe des travailleurs ? Il veut... j'arrive pas bien à cerner, en fait, quel est votre...
Parce que
positionnement
je pense,
exact.
Si je comprends bien vos questions, mais si je me trompe, vous me reprendrez, je pense que vous êtes en train d'essayer de cloisonner l'Europe. Il n'y a pas d'un côté l'Europe des travailleurs, l'Europe de ceci. L'Europe, c'est un tout. Mais il faut aussi, et surtout, y intégrer aussi le monde du travail, donc les travailleurs, évidemment. C'est quoi le projet politique de l'Europe ? C'est un continent où il fait bon vivre, on a atteint la paix. Ça c'est acquis, où les peuples aspirent à élever leur niveau de vie, accès aux soins, accès à la culture, à l'éducation, ça s'appelle un vrai projet politique. Avoir le droit à une retraite décente, c'est ça l'Europe politique, c'est pas simplement les uns contre les autres, et le sentiment aujourd'hui qui est perçu, et pas toujours à tort, par les Français, mais pas seulement par les Français, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'Europe qui favorise le monde de la finance, et au détriment du monde du travail, et c'est ça qui fait aujourd'hui la faiblesse de l'Europe.
Alors moi, ce que je comprends pas très bien, c'est que vous parlez de l'eurozone, très bien, restons sur une Europe d'eurozone.
Par exemple, c'est un exemple.
Mais l'eurozone, pour le moment, c'est elle qui est en crise, que ce soit l'Espagne, l'Italie, la Grèce,
la France,
l'Irlande, tout ça, c'est de l'eurozone. Et la Grande-Bretagne est un des qui n'en fait pas partie, est un des pays qui s'en sort le mieux, au moins en termes de croissance aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous avez raison de dire aujourd'hui. Mais regardez le prix que les travailleurs, notamment les petits gens.
Je vois pas en quoi. Ma question, c'est que je ne vois pas en quoi le fait de rester sur l'eurozone, comme vous le préconisez, donc de circonscrire l'Europe, change quelque chose à la politique qui y est menée.
Non, mais la vraie question, c'est de savoir que ce soit l'eurozone ou moins ou plus. C'est de savoir est-ce qu'à un moment donné, on veut avoir un projet commun. Aujourd'hui, il n'existe pas de projet commun. Il n'y a pas de projet commun. On essaye d'harmoniser certaines choses, mais qui vont plutôt dans le sens où on enlève des droits aux citoyens. Mais je reprends l'idée de la Confédération européenne des syndicats. L'injection de 260 milliards d'euros par an sur 10 ans qui pourrait permettre la création de 11 millions d'emplois. Aujourd'hui, aucun pays, ou en tout cas ne défend cette idée parce que c'est qui va payer, qui va payer, qui va payer. Ben c'est tous ensemble. La force de l'Europe, c'est on met les moyens en commun, on mutualise des moyens et on sort de cette austérité par l'investissement. Et l'investissement ne peut être qu'à l'échelle européenne.
La France n'a pas les moyens, même y compris l'Allemagne n'a pas les moyens. Aucun pays seul aujourd'hui n'a les moyens d'injecter autant d'argent dans l'économie et dans l'investissement, qu'il soit public ou privé, pour sortir de cette austérité.
Et ces 260 milliards qui viennent du budget européen, d'où ils viennent ces 260 milliards ?
Mais aujourd'hui, on a les moyens.
Non, mais la proposition de la Confédération européenne des syndicats, les 260 milliards, ils viennent d'où ?
Ben, écoutez, de la même manière qu'aujourd'hui le Parlement français est en train de se réunir sur quelles échelles on peut faire des économies, demain les pays de l'Europe peuvent se réunir sur comment on construit un budget européen qui permette justement cette relance des investissements. Voilà, il faut qu'on se mette d'accord sur un budget évidemment, oui, effectivement.
Alors Édouard Martin, vous êtes, je le rappelle, tête de liste dans la région Est de
Grand
la France.
Est.
Grand Est Grand de la France, Est. Il y a 8 grandes circonscriptions pour ces européennes sur le territoire français. Votre candidature, évidemment, elle a beaucoup fait parler après Florange. On va écouter votre adversaire UMP, Nadine Morano. On va réécouter ce qu'elle disait il y a quelques mois, quand votre candidature a été officialisée. Vous nous répondrez juste après.
Je vous suggère de lire la presse régionale chez nous et vous comprendrez ce que pensent les syndicalistes de Florange, les ouvriers de Florange, en disant ça fait longtemps qu'il avait arrêté de faire du syndicalisme et qu'il avait changé de camp. Maintenant, les masques sont tombés. Si vous voulez, les syndicalistes nous disent il s'est servi de nous, on est cocu, on est content qu'il s'en aille.
Je vous vois grimacer, vous en avez marre d'entendre
non,
ce discours.
Non, parce qu'il y a eu le Larsen. Ah.
C'était juste un problème de son alors. Vous me laissez... Nadine Morano ne vous fait pas grimacer.
Moi, elle me fait même plus rire. Enfin bref, simplement sur ce qu'on vient d'entendre de la part de Madame Nadine Morano. Là aussi, il faut rétablir la vérité. Lorsqu'elle dit les syndicats, je vais vous dire à qui elle faisait référence, parce que je me souviens de l'image, elle avait un article de la presse locale. Elle fait référence à Monsieur Walter Broccoli, délégué syndical de Force ouvrière, qui bizarrement soutient l'UMP. Hein, et bizarrement, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui soutient l'UDI. Enfin bref, Monsieur Walter Broccoli est chargé de ressentiment à mon encontre depuis des années, c'est pas nouveau. Et Madame Morano, elle a juste un problème, simplement là-dessus. Elle a pas un problème avec Édouard Martin, simplement. Elle a un vrai problème avec les ouvriers. Parce que lorsqu'elle dit ça, ça veut dire que quelque part, elle estime que la politique est réservée à une caste et les ouvriers ne doivent pas en faire partie.
C'était le sens de ma question. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis que vous êtes passé du syndicalisme à la politique, qu'on vous fait ou un procès en incompétence ou un procès en illégitimité ?
Alors moi, je ne revendique pas d'avoir toutes les compétences, effectivement. J'apprends au quotidien, vous savez. Moi, je fais pas partie de ceux qui... parfois nous énerve, qui essaie de nous faire croire qu'ils savent tout sur tout. Non, moi je ne sais pas tout sur tout. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'ai aussi cette volonté d'apprendre. Mais l'illégitimité, effectivement, c'est le sens des propos de Madame Nadine Morano, c'est qu'elle estime que je ne suis pas légitime à être candidat, pas parce que j'aurais pas les mêmes droits que n'importe qui, mais parce que effectivement j'ai combattu les positions de Madame Morano et j'ai combattu les positions de Monsieur Sarkozy à son époque. Et elle faisait partie de celles qui m'accusaient de faire de la politique. Alors, si pour elle faire de la politique, si défendre les intérêts d'un territoire, défendre les entreprises, défendre le maintien de l'emploi, c'est faire de la politique, alors oui, je revendique de faire la politique. Mais j'aurais aimé, dans un souci d'équilibre et d'objectivité de la part de Madame Morano, qu'elle tienne les mêmes propos à l'encontre de Monsieur Charles Bec-Bédé, qui lui est toujours en activité au MEDEF, syndicat patronal, et qui a été, je ne sais même pas s'il y a encore, mais qui a été pendant très longtemps à l'UMP.
Voilà,
ça lui posait aucun problème, Madame Morano. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, elle a un problème avec les syndicats d'ouvriers.
Bernard Pellegrin.
Oui, enfin, même si elle le dit avec des mots un peu outranciers, ce qu'elle vous dit, c'est comment faites-vous pour passer de l'extrait sonore qu'on a entendu au début de l'émission à aujourd'hui tête de liste du Parti Socialiste pour les Européennes. Autrement dit, moi, ma question est simple. Vous vous sentez à l'aise au Parti Socialiste ?
Alors, si pour vous, le Parti Socialiste, c'est François Hollande, M. Valls, M. Hérault, tout simplement, effectivement, je ne serais pas très à l'aise. Mais pour moi, le Parti Socialiste, il va au-delà de ces personnages-là. Le Parti Socialiste, c'est aussi et surtout et avant tout des militants de terrain.
Mais c'est pas un parti d'ouvriers, M. Martin, le Parti Socialiste,
attendez,
aujourd'hui.
Non, mais ceux qui sont au pouvoir, qui ont les rênes du Parti Socialiste, effectivement, malheureusement, ne sont pas ouvriers. Mais les militants de terrain, ceux que je côtoie tous les jours, et avant même que j'accepte d'être candidat sur liste socialiste, ce sont des gens qui partagent, enfin, en tout cas, je partage les mêmes valeurs qu'eux. Et je me sens socialiste, mais le socialisme, entre guillemets, l'esprit de Jaurès, effectivement, qui manque peut-être aujourd'hui, effectivement, à la tête du Parti Socialiste. J'espère que ça va changer. Mais
Le tout, c'est qu'à un moment donné...
Mais comment ça peut changer, Édouard Martin ?
À un moment donné, le problème, c'est aussi très français, ça. C'est qu'on aime bien mettre les gens dans les cases. Donc, j'ai effectivement eu une période où j'étais syndicaliste. Lorsque j'ai défendu la cause de Florange, de l'usine de Florange, c'était pas uniquement défendre une usine à un moment donné, c'était défendre un projet social. C'est est-ce que parce que Monsieur Mittal a des appétences et des appétits tellement grands de gagner plus d'argent, est-ce que il doit détruire le vivre ensemble d'un territoire, d'un collectif, parce que Monsieur veut plutôt aider les actionnaires. Et à un moment donné, j'ai bien vu quelles étaient les limites de l'action syndicale. Et moi, ce que j'ai envie, c'est effectivement, et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en politique, pour, de manière très humble, hein, j'ai pas la prétention de tout changer du jour au lendemain, parce que si je suis élu, je serai un parmi 751, mais j'ai envie effectivement de m'investir pour aider au changement.
Mais vous êtes un symbole, Édouard Martin.
Mais c'est vous qui m'en avez fait un symbole.
Je pense que les socialistes, qui vous ont demandé d'être tête de liste, oui, vous ont demandé parce que vous êtes un symbole,
oui,
quand même.
Ah oui, ah non, mais ça, ah oui, oui, non, mais évidemment, peut-être, certainement, mais vous savez,
il faut. Et non seulement un symbole, mais peut-être aussi la possibilité, un instrument au bon sens du terme, pas au mauvais sens du terme, un instrument pour éventuellement ramener les ouvriers vers le Parti Socialiste, parce que vous voyez des militants de terrain qui sont proches de vous, etc., mais globalement, quand même, on a bien vu l'analyse du scrutin des municipales,
oui, ça, y a
le monde ouvrier a fui depuis longtemps le Parti Socialiste, donc vous êtes aussi là, peut-être, pour
alors
essayer
savez,
de le ramener,
je vais vous faire,
le monde ouvrier.
Je ne suis pas non plus un perdreau de trois semaines.
J'imagine, bien sûr. Hein.
Donc peut-être qu'il y a eu des calculs de ce genre-là, mais en même temps, j'ai envie de dire, si ce calcul politicien, si, entre guillemets, l'utilisation d'un symbole quel qu'il soit, pouvait effectivement favoriser la venue un peu plus massive de gens de la société civile et du monde du travail et des ouvriers, ben si, entre guillemets, je sers à ça, ben, ça sera déjà pas mal, quoi.
Alors, dans votre circonscription du Grand Est, il y a eu un sondage réalisé récemment. Il se trouve que le Front National est en tête, est donné en tête avec 26% des intentions de vote. L'UMP, 24%. Vous êtes troisième avec seulement 15,5% des voix. Ces voix qui vous manquent, elles sont au Front National aujourd'hui?
Peut-être une partie, certainement, oui. Mais elles sont surtout dans les abstentionnistes. Et c'est là où il faut redoubler d'efforts. Je ne sais pas si on va arriver de convaincre tous ces gens-là de venir voter massivement le 25 mai. Parce que, vous savez, l'Europe, quelle que soit la lecture et la vision que les uns et les autres puissent avoir sur l'état actuel de l'Europe, le 25 mai va se passer quelque chose d'important. Pour la première fois depuis que l'Europe existe, c'est justement le suffrage universel à travers le vote des citoyens que nous pourrons demain avoir le changement. Le président de la Commission sera issu du parti majoritaire sorti des urnes. Donc si on veut vraiment changer l'Europe... Il y a un deal très facile. Soit l'Europe libérale, que tout le monde condamne, avec M. Barroso, parce que je rappelle que M. Barroso, l'UMP est quand même affilié au PPE, hein, donc c'est quand même facile de dire c'est la faute à Hollande. Non, la Commission aujourd'hui, c'est Barroso qui est PPE. Ou alors, on continue avec Barroso, ou alors on change et on essaye d'avoir une Europe un peu plus sociale.
Oui, mais est-ce que la politique actuelle de François Hollande est de nature à remobiliser l'électorat de gauche?
Mais justement, le problème qu'il y a, c'est que, et là, moi, je veux pas tomber dans ces travers-là. On a compris le message. On a voulu nationaliser les élections municipales, ok, d'accord. On voit bien que nos opposants veulent maintenant nationaliser le scrutin européen. J'ai simplement envie de dire, ne vous trompez pas d'élections, parce que l'Europe, avec ou sans la France, elle se fera quand même. Donc, à nous de savoir si on veut peser sur l'orientation de l'Europe de demain. Et moi, j'ai envie que les gens prennent conscience qu'ils ont une responsabilité énorme le 25 mai au soir.
Merci, Édouard Martin. C'est la fin de Mardi Politique. Merci à nos partenaires Libération et l'AFP, Nathalie Rollin et Bernard Pellegrin. Cette émission a été réalisée par Mathias Golchani avec l'aide d'Audrey Yatoni. Très bonne soirée à tous.